podcast RFHT.
Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Lévesque, je suis interniste avec comme un de mes thèmes de recherche l'hémophilie acquise. Comme beaucoup le savent, j'ai coordonné le registre français SACHA, co-coordonné le registre européen ITCH2, qui a regroupé plus de 500 cas d'hémophilie acquise, et mené à terme un PHRC testant lors d'une étude prospective randomisée, deux schémas thérapeutiques d'immunosuppresseurs dans cette indication, l'étude CREA qui est soumise à publication. L'hémophilie acquise, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans des podcasts précédents, est une anomalie acquise de la coagulation, se traduisant par un déficit isolé et acquis en facteur 8. Il est secondaire à la présence d'auto-anticorps anti-facteur 8, même si de rares cas d'hémophilie acquise avec auto-anticorps anti-facteur 9 ont été rapportés. Véritable urgence diagnostique et urgence thérapeutique, sa prise en charge doit idéalement être réalisée dans un service habitué à ce type de pathologie, avec d'une part la problématique de l'éradication de l'inhibiteur dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, et d'autre part la prise en charge et la prévention des manifestations hémorragiques graves qui font l'objet de la totalité de ce podcast. Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons interroger le docteur Benoît Guillet, médecin hématologue spécialiste en hémostase biologique et clinique, médecin coordonnateur du Centre de maladies rares pour les maladies hémorragiques constitutionnelles de Rennes, dont la principale thématique de recherche concerne le facteur 8 et l'hémophilie, et notamment l'hémophilie acquise. Benoît, avant de parler de la gestion des hémorragies dites sévères, peux-tu nous rappeler la définition d'une hémorragie sévère au cours de l'hémophilie acquise ?
Bonjour à tous. Une hémorragie sera qualifiée de sévère par son volume avec une chute significative du taux d'hémoglobine. On peut prendre le critère au moins 2 grammes par décilitre, la nécessité d'une transfusion de culoglobulaire et ou sa localisation dans une zone anatomique dangereuse, par exemple intracrânienne, ou responsable d'une compression vasculo-nerveuse ou encore cervicale, périorbitaire, pharyngée, rétropéritonéale, au niveau du psoas, digestive, musculaire, douloureuse notamment. Alors, il est important de préciser ici que les ecchymoses étendues, qui sont très fréquemment retrouvées dans l'hémophilie acquise, ne sont pas des hémorragies sévères si elles sont isolées et même si elles sont vraiment très étendues, couvrant par exemple tout un hémithorax. Seules les hémorragies jugées sévères doivent amener à un traitement anti-hémorragique curatif.
Merci. Et maintenant, avant de définir les modalités thérapeutiques, peux-tu nous préciser les différentes molécules à notre disposition et la place éventuelle du facteur 8, dont les indications doivent, à mon sens, rester anecdotiques?
Il existe deux grandes classes de molécules qui font partie de notre arsenal thérapeutique dans l'hémophilie acquise. En premier lieu et avant tout, les agents bypassants, ou en français, agents court-circuitants, l'inhibiteurs, qui agissent en activant la coagulation par contournement du complexe tenase qui fait intervenir physiologiquement le facteur 8. Le mécanisme d'action sera donc ici une activation de la coagulation par la voie exogène ou directement par le tronc commun. Ce sont des activateurs puissants de la coagulation car ils contiennent des facteurs activés. Et donc, il s'agit du facteur 7 activé recombinant et des concentrés du complexe prothrombinique activé, un peu l'équivalent d'un concentré PPSB activé. La seconde grande classe thérapeutique est celle des concentrés de facteur 8, alors soit humains dérivés du plasma issu de donneurs de sang ou d'origine recombinante, soit hybrides humains-porcins recombinants qui contient des régions d'acides aminés porcins localisées dans des épitopes fréquents des anticorps anti-facteur 8.
Merci. Quel traitement anti-hémorragique est indiqué en première intention et peux-tu nous rappeler les posologies de ces molécules et surtout leur niveau d'efficacité attendu dans cette indication?
Les médicaments anti-hémorragiques de première intention sont les agents bypassants, c'est-à-dire donc le facteur 7 activé recombinant et le concentré de complexe prothrombinique activé. La posologie du facteur 7 activé recombinant est de 90 à 100 microgrammes par kilo par injection, qui sera répétée toutes les 2 heures initialement, puis élargie progressivement toutes les 4 heures. Ceci est lié à sa demi-vie courte, estimée à environ 2 heures. La posologie du concentré de complexe prothrombinique activé est initialement de 80 à 100 unités par kilo par perfusion qui sera répétée toutes les 8 à 12 heures. La dose quotidienne à ne pas dépasser pour ces concentrés est de 240 unités par kilo et par jour. Leur niveau d'efficacité est important et comparable, puisqu'elle a été jugée pour ces deux produits comme excellente à bonne dans environ 90% des cas dans les différentes séries et registres rapportés. Ces deux médicaments présentent des inconvénients et avantages complémentaires qui dépendent surtout du lieu d'hospitalisation des patients. Ainsi, le facteur 7 activé recombinant pose le problème de sa demi-vie courte qui oblige à répéter fréquemment les injections, initialement à toutes les 2 à 4 heures comme indiqué il y a quelques secondes. Par contre, il est disponible dans tous les CHU et de nombreux centres hospitaliers périphériques car il peut également être indiqué dans les hémorragies du postpartum qui résistent au traitement obstétrico habituel. Ces injections sont rapides, en quelques minutes, et peuvent donc être réalisées en ponction veineuse directe. Le concentré de complexe prothrombinique activé présente, lui, l'intérêt d'une demi-vie d'action beaucoup plus longue, entre 8 et 12 heures environ, permettant de plus espacer les perfusions, comme indiqué juste avant. Par contre, ils sont beaucoup moins disponibles dans les centres hospitaliers, car leurs indications sont moins nombreuses que le facteur 7 activé recombinant. Et d'autre part, les temps de perfusion peuvent être assez longs, habituellement 30-45 minutes, nécessitant une bonne voie veineuse d'abord. Une étude française qui vient d'être publiée début 2022 dans la revue de médecine interne, basée sur le PMSI, a rapporté que ces deux traitements étaient comparables en termes de durée de séjour, de survie et de coûts liés aux produits procoagulants utilisés. Alors, Hervé, à mon tour de t'interroger, quel est l'effet secondaire principal de ces deux agents bypassants dans l'hémophilie acquise? Peut-on estimer à l'avance ce risque?
Le risque, il existe. Hein. C'est un risque qui est essentiellement thrombotique, d'où l'importance d'une bonne indication et surtout d'une durée de traitement pas trop prolongée. Ce risque est identique pour les deux agents bypassants, avec des épisodes thrombotiques à la fois artériels ou veineux. Le risque estimé chez ces patients souvent âgés est d'environ 5%, comme dans le registre européen ITCH2 ou dans l'étude française basée sur les données du PMSI. Il faut cependant rappeler que l'imputabilité n'est pas toujours facile. Dans les données françaises issues du PMSI, 6% des patients ont eu un codage de thrombose, 2/3 sur un segment artériel, 1/3 d'origine veineuse, et ce dans les 3 mois suivant l'hospitalisation pour hémophilie acquise avec l'administration d'un agent bypassant. On a donc parlé des agents bypassants et de leurs indications, de leur efficacité et de leurs effets secondaires éventuels. Mais Benoît, si les agents bypassants sont non disponibles dans l'établissement ou encore inefficaces ou contre-indiqués par des comorbidités du patient, une autre alternative ne serait-elle pas de perfuser finalement du facteur 8?
Oui, en effet, c'est on pourrait l'appeler la deuxième ligne thérapeutique. Mais pour les concentrés de facteur 8 humains, l'objectif sera de saturer l'anticorps anti-facteur 8 et de normaliser le taux de facteur 8, donc au moins au-delà de 50%. Cela nécessitera de fortes doses de facteur 8. C'est la raison pour laquelle cette stratégie thérapeutique ne peut être mise en place qu'en cas de titre anti-facteur 8 faible, classiquement en dessous de 5 unités Bethesda. Les protocoles peuvent différer en fonction de la règle de calcul utilisée, mais le principe reste le même, avec un premier bolus permettant à la fois saturation de l'anticorps et normalisation du facteur 8, puis de poursuivre soit en perfusion continue, qui est à ma préférence car le taux de facteur 8 peut être monitoré à n'importe quel moment, soit en discontinu basé sur la répétition de bolus de facteur 8. Alors, je peux donner un exemple de calcul pour un titre de unité Bethesda que j'utilise et qui fonctionne habituellement. Donc, une première dose de le premier bolus de 50 unités par kilo par unité Bethesda pour saturer, auquel on rajoute 50 unités par kilo pour normaliser le facteur 8, suivi d'un dosage sanguin de facteur 8 au pic 20 à 30 minutes pour s'assurer de la hauteur du facteur 8 qu'on a recherché, puis démarrage de la perfusion continue à un débit de 4 unités par kilo et par heure par unité Bethesda, auquel on ajoute 4 unités par kilo et par heure. Ainsi, pour donner un exemple concret, pour un titre de unité Bethesda, le bolus serait de 100 unités par kilo, 50 pour saturer plus 50 pour normaliser, suivi d'une perfusion continue de 8 unités par kilo et par heure. Cette dernière pouvant ensuite être modulée en fonction des taux de facteur 8 mesurés au pic et pendant la perfusion continue. Pour le facteur 8 hybride porcin humain, là encore, tout dépend du titre d'anticorps à anti-facteur 8 spécifiquement dirigé contre ce concentré, car l'anticorps anti-facteur 8 peut avoir d'emblée une réaction croisée facteur 8 humain, facteur 8 hybride porcin humain. Alors, la recherche de cette réaction croisée nécessite une mise au point particulière très importante de la méthode Bethesda classique par le laboratoire d'hémostase spécialisé. Et une fois ce titre spécifique obtenu, qui peut prendre du temps, le calcul des doses sera identique à celui décrit juste avant avec le facteur 8 humain.
Merci pour ces précisions. Donc, manifestement, la mise en place d'un traitement anti-hémorragique est quand même relativement claire dans l'esprit de tout le monde. Tu nous as parlé d'efficacité anti-hémorragique. Mais justement, sur quels critères considère-t-on que ces traitements sont efficaces?
Alors, les critères d'efficacité ne sont pas très, très bien codifiés. Cependant, les critères que l'on peut retenir sont d'abord d'ordre clinique, évidemment, avec diminution ou disparition de la douleur. En cas d'ensaillement extériorisé, son arrêt. L'évolution de l'hématome intramusculaire, par exemple du quadriceps, en mesurant très régulièrement le diamètre de la cuisse, et bien sûr la stabilité hémodynamique. Le taux d'hémoglobine est également très important, c'est la raison pour laquelle une numération sanguine devrait être prescrite chaque jour, afin de surveiller la cinétique du taux d'hémoglobine. Enfin, l'imagerie par échographie, scanner ou IRM, qui sera fonction de la localisation, peut être un critère très important, mais il est difficile de les répéter très souvent. Ces critères seront également majeurs à considérer pour dépister une récidive du saignement ou l'apparition d'une autre localisation.
Merci pour ces précisions. Et maintenant, la question qui pour moi est la plus difficile. Finalement, pendant combien de temps doit-on traiter? Sur quels critères peut-on se baser pour décider d'arrêter le traitement anti-hémorragique? Et quelles sont les modalités de cet arrêt thérapeutique? Et en fait, doit-on raisonner dans l'hémophilie acquise comme on le fait au cours de l'hémophilie constitutionnelle sévère?
Merci pour cette question extrêmement difficile. C'est la plus difficile, je pense, à répondre pour le traitement anti-hémorragique de l'hémophilie acquise. On pourrait considérer que quand les critères d'efficacité ont démontré l'arrêt du saignement actif, le traitement alors peut être stoppé immédiatement. Cependant, cette stratégie présente un risque non négligeable d'une récidive à très court terme du saignement, spontané ou provoqué, par exemple une récidive d'hématome du psoas causée par un mouvement brusque du membre inférieur homolatéral. Et ces signes de récidive peuvent être au tout début silencieux et ne se manifester clairement que 24 à 48 heures plus tard. On notera ici l'intérêt de la surveillance du taux d'hémoglobine, même s'il peut également être pris à défaut au tout début du ressaignement. La douleur est un signe important, également à prendre en compte, et ne pas hésiter en cas de son apparition, par exemple au niveau abdominal, d'avoir recours à l'imagerie telle qu'une échographie. Il paraît donc indispensable de le poursuivre après l'arrêt manifeste du saignement actif. Mais alors, pendant combien de temps? La réponse dépend du type et de la localisation hémorragique, mais on peut indiquer une poursuite du traitement pendant quelques jours, le temps que les mécanismes physiologiques de résorption se soient mis en place de manière efficace. Ces mécanismes ont besoin d'une coagulation normalisée pour être pleinement opérationnels. À l'inverse, il convient d'être prudent sur l'usage trop prolongé des agents bypassants chez ces patients le plus souvent fragiles et potentiellement à risque thrombotique. Ainsi, la décision d'arrêter un traitement anti-hémorragique doit prendre en compte clairement la balance bénéfice-risque et être adaptée à la situation clinique. Mais le traitement anti-hémorragique est habituellement arrêté plus tôt que ce qu'on pourrait faire dans l'hémophilie constitutionnelle.
Benoît, merci pour ces propos assez clairs et qui répondent parfaitement à la question posée. On a parlé du traitement curatif finalement de ces hémorragies, mais il ne faut pas oublier l'autre volet thérapeutique qui est le volet préventif. Et finalement, peux-tu nous préciser comment on peut prévenir au maximum les hémorragies graves au cours de l'hémophilie acquise?
Alors là aussi, c'est un point très, très important. La prévention anti-hémorragique chez ces patients est indispensable en respectant les précautions et contre-indications de gestes ou médicaments qui peuvent favoriser l'apparition ou l'aggravation d'un saignement. De principe, tout geste invasif doit être évité. Et si la prise en charge médicale nécessite un tel geste, par exemple une gazométrie artérielle, celui-ci doit être précédé d'une injection d'un agent bypassant. La simple compression du point de ponction est obligatoire et efficace pour ce type de geste artériel, mais aussi après toute ponction veineuse. Les chirurgies, même à visée étiologique, devraient être repoussées de quelques jours ou semaines après le diagnostic d'hémophilie acquise, à déterminer en fonction de la rapidité d'efficacité du traitement immunosuppresseur. Les chocs et chutes doivent être prévenus au maximum en recherchant systématiquement leurs facteurs de risque chez le patient. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent être contre-indiqués, ainsi qu'idéalement tous les agents antithrombotiques. Cependant, certains de ces traitements antithrombotiques peuvent rester nécessaires, tels que les antiagrégants plaquettaires, souvent prescrits chez ces patients âgés. D'autant plus si des agents bypassants sont utilisés pour arrêter un saignement. Un traitement antiagrégant pourrait être suspendu, mais après un avis cardiologique spécialisé et pendant seulement quelques jours. Et finalement, Hervé, pour le traitement d'une hémorragie sévère, existe-t-il d'autres procédés disponibles que les traitements par agent bypassant ou par perfusion de facteur 8?
Oui, Benoît, avant d'envisager les techniques complexes dans ces situations souvent très préoccupantes, il me semble important de parler un moment de la desmopressine qui est parfois utilisée. Cette molécule induit en environ 30 minutes une élévation du taux du facteur 8 et du facteur Fulbrand. Cependant, elle n'a aucune place pour les hémorragies graves au cours de l'hémophilie acquise et son utilisation ne doit en aucun cas retarder le recours à des traitements dont tu as parlé, qui ont montré leur efficacité, à savoir les agents bypassants. Et pour les auteurs des recommandations nationales et internationales, la desmopressine n'a pas de place dans ces indications. En cas d'échec des différents agents antihémorragiques classiques, on va dire, on peut proposer le recours à une épuration extracorporelle de l'inhibiteur par plasmaférèse. Et on a quelques observations bien documentées qui montrent que ça peut donner des résultats dans certaines situations. Et ce qui est encore mieux, mais il n'y a que peu de centres qui possèdent cette technique, ce sont les techniques en immunoabsorption qui donnent de bons résultats. Néanmoins, le recours éventuel à ces traitements, je dirais, qui sont en échappement de les patients qui sont, je dirais, en difficulté, eh bien, il faut rediscuter leur place en tenant compte du facteur hybride porcin humain dont tu as parlé et d'une biothérapie ciblée qui n'a pas l'AMM dans ses indications, mais qui peut avoir sa place, qui est l'emicizumab. Le facteur 8 hybride porcin humain qui peut être utilisé en première intention, c'est l'AMM en France, mais qui est surtout utilisé outre-Atlantique dans cette indication. Pour nous, on la réserve plutôt en seconde intention en France. Comme tu l'as dit, son utilisation nécessite une structure où il est possible de rechercher la présence d'anticorps anti-facteur 8 porcin, dont la présence va modifier la stratégie thérapeutique et de fait son utilisation, qui doit être anticipée. Cependant, ce traitement efficace a l'avantage de mesurer le facteur 8 circulant après la perfusion et au décours. L'autre alternative, dans laquelle on a peu d'expérience, qui doit aujourd'hui rester un traitement de dernier recours, pourrait être l'emicizumab, qui est un anticorps monoclonal humanisé, bispécifique, mimant l'activité du facteur 8, mais qui a l'AMM en France seulement en prophylaxie au long cours des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie A congénitale avec inhibiteur, mais qui ne l'a pas dans les hémophilies acquises. Néanmoins, il s'agit d'une molécule dont on a peu d'expérience dans ces indications, avec un risque non nul de micro-angiopathie thrombotique. Je crois que dans ces situations d'échec ou de difficultés thérapeutiques, il faut savoir s'aider d'avis d'experts des centres de référence pour les maladies hémorragiques constitutionnelles, dont des avis des RCP peuvent être rapidement obtenus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces traitements anti-hémorragiques au cours de l'hémophilie acquise et qui met fin à ce podcast. Merci de votre attention.
Merci, au revoir.
Podcast RFHT.